Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là de revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedesluttes.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. C'est pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes, du lundi au vendredi, de 12h30 à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et aujourd'hui dans cette émission du lundi 7 avril 2025, une émission autour de la santé. Dans une première partie d'émission, nous vous diffuserons donc un reportage qui a été réalisé lors de la mobilisation du mardi 25 mars dernier, où se tenait donc un nouveau rassemblement pour interpeller le ministre de la Santé afin de stopper la fermeture de près de la moitié des services du centre de santé de Stalingrad, situé dans le 19e arrondissement et officiellement classé zone sous-médicalisée. Ensuite, dans une deuxième partie d'émission et pour continuer autour de la question de la santé, nous vous diffuserons là un reportage qui a été réalisé lors de la mobilisation du 5 avril 2025 dernier à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Nous commençons donc cette émission avec le reportage autour de la fermeture de la moitié des services du centre du 19e et on revient ensuite dans l'actualité des luttes.
Bonjour à tous, c'est le troisième rassemblement déambulation qu'on organise. Pourquoi on se bat pour le maintien du centre ici? C'est qu'il y a 100 000 consultations par an et 30 000 personnes qui fréquentent ce centre. Quelques mots encore, en fait c'est le comité ou le collectif de défense du centre Stalingrad, comme c'est écrit sur les pancartes, qui est à l'initiative de ce rassemblement. Ce collectif de défense, il rassemble bien sûr des usagers, des soignants, des organisations syndicales, des associations, des organisations politiques, des élus et de simples citoyens. Et il se bat pour cette chose toute simple qui est que ici il y a un centre de santé, on vit ici et on aime le 19e et on a envie de pouvoir continuer à se soigner dans le 19e. Voilà. Maintenant, on va commencer par les témoignages. Alors, qui est-ce qui commence?
J'habite dans ce quartier depuis 34 ans déjà. Donc, je suis venue ici souvent en qualité de patiente. Mes enfants ont fréquenté ce centre également. J'y amène ma petite fille aujourd'hui. Et d'autre part, je fais partie d'un collectif donc de sans-papiers qui viennent manger tous les matins au Jardin des Halles. Certains
bénéficient déjà d'une couverture santé, donc s'ils peuvent venir ici, ça leur évite d'aller engorger les urgences. Et le fait de fermer ce centre, ça empêchera beaucoup de gens de se soigner. Donc là, on parle de problèmes de santé publique. Et à ce titre-là, faut être ici aujourd'hui.
Donc, moi, je suis donc médecin généraliste centre de la CRAMIF, là, depuis 2 ans et demi. Donc, je me réjouissais effectivement d'avoir un ancrage dans le 19e, dans cette belle structure qui a 60 ans. Je suis un peu désespéré de voir une structure qui est tellement importante se voir amputée d'une vingtaine de soignants, alors que on a besoin, nous soignants, de ne pas être isolés, hein, notamment avec des patients âgés et polypathologiques. Donc là, c'est vrai que voir des soignants partir et être virés de façon complètement arbitraire, bah pour les soignants qui restent, ça va donner une structure un petit peu un peu vide et on ne pourra pas travailler de la même façon. Et puis bon, c'est vraiment exemplaire, je trouve, de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que cette structure fonctionne bien. Au niveau des soignants, il y a vraiment une belle synergie. On a des patients qui ont besoin de toutes les spécialités, hein, que ce soit la diabétologie, la rhumatologie, la kiné, la radiologie. Et avancer des frais, c'est pas évident dans ce quartier, qui est un désert médical, dans une municipalité de gauche, dans les locaux même de l'assurance maladie. Alors, je ne sais pas ce qu'on veut, quoi, mais déjà, en médecine libérale, il y a très peu de médecins qui s'installent parce que ce n'est pas évident de s'installer, notamment dans un désert médical où il y a tous les patients, justement, âgés et précaires qui ne trouvent plus de médecins. Et donc, une structure pluridisciplinaire permet justement de ne pas être seul et d'avoir des soins cohérents et de pouvoir suivre ça dans la durée, quoi. Donc là, c'est vraiment un démantèlement de notre modèle social, de la santé publique, qui est inacceptable. Et pour les soignants qui vont rester, ça ne va pas être drôle non plus, quoi, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir rester indéfiniment et il y aura des charrettes successives. Donc là, tant qu'on est au complet, bon, bah, c'est bien. Tout le monde devrait être là, d'ailleurs, pour essayer de défendre de nous défendre tous, quoi. Parce que quand on sera à la moitié de l'effectif, ce sera encore pire. Et au final, je ne sais pas ce qu'on veut, de faire un audit financier pour dire que la santé publique n'est pas rentable, le secteur 1 n'est pas rentable. À ce moment-là, on va tous jeter l'éponge à un moment donné, quoi. Donc je tenais à être présent, voilà, pour que ça continue.
Une personne qui travaille à l'accueil ici, qui veut prendre la parole.
Bonjour à tous. Bonjour les chers députés. Très contente que vous soyez tous réunis ici pour nous aider. C'est très émouvant. J'ai peur pour le 19e, j'ai peur pour la santé de mes enfants, j'ai peur pour moi-même, mon poste de travail, et j'ai peur de ne plus être à l'aise dans le poste que je vais occuper demain si on me licencie, parce que j'aime être en contact avec la patientèle et pouvoir les orienter, les conseiller. Et j'ai envie de rester au centre médical de la CRAMIF. Aujourd'hui, je suis maman célibataire qui vit dans le 19e, qui est patiente au centre médical. Et j'appelle vraiment au ministre de la Santé de penser à nous. Nous, les habitants du 19e, nous ne voulons pas que ce centre ferme. C'est un centre qui est ouvert depuis 1965 et on y est beaucoup, beaucoup, beaucoup attachés. J'ai vraiment envie que vous nous écoutiez et que vous répondiez favorablement à notre demande, parce qu'on ne veut pas de la fermeture du centre de santé.
Nous allons devoir vous quitter pour aller au conseil d'arrondissement, parce que avec aussi à l'ordre du jour plein de sujets sur la casse des services publics et aussi sur la santé, parce que nous allons aborder une question qui est celui de l'accès aux maisons de santé de garde, qui à partir du 1er avril va être modifié. Et donc pour aller consulter dans les maisons de santé de garde, il va falloir passer par le SAMU à partir du 1er avril, le SAMU qui est déjà extrêmement engorgé. Et ça peut paraître être un détail, mais en réalité c'est très lié à ce pourquoi on est en train de se battre ici, parce que c'est bien toute la casse de la santé publique, c'est la casse de l'accès aux soins qui est en train d'être organisée par ce gouvernement. Et en fait, qu'est-ce qu'ils pensent? que si on n'a plus accès aux médecins, que si on n'a plus accès à des consultations, on ne sera plus malade. Mais enfin, ça fait des années que la doctrine libérale essaye, porte ça, en disant que si on réduit les dépenses de santé, on réduira les malades. Mais c'est complètement faux. En réalité, ce sont des calculs artificiels qui n'ont d'autres objectifs que faire des économies à court terme. Et ce qui est en train de se passer ici, c'est exactement ça. C'est un déficit organisé par la sécurité sociale elle-même pour ne pas sauvegarder son offre de santé en proximité. Donc on va continuer à se battre, on va continuer à se battre pour une meilleure prise en charge, pour sauvegarder le centre de la santé de la Cramif et pour sauvegarder une offre de santé de qualité accessible à toutes et tous en secteur 1. Donc voilà, on continuons à être toujours plus nombreux, plus nombreuses, soignants, élus, habitants, militants associatifs, et on ne lâchera rien jusqu'au bout, jusqu'à la confirmation que pas un personnel soignant paramédical ne sera licencié à la Cramif.
Madame Obono, vous avez pu, avec monsieur le maire, rencontrer le ministre il y a un mois maintenant, qui a pris un engagement. Il a pris un engagement de rouvrir le dossier avec les élus locaux. On attend toujours des nouvelles du directeur général. Je l'ai relancé personnellement cet après-midi. On ne lâchera pas l'affaire. On va le poursuivre. Son ministre lui a demandé de rouvrir le dossier. Il va rouvrir le dossier. Une clause de revoyure a été quand même fixée avec le ministre. Et donc on pourra retourner lui demander des comptes. Comptez sur nous, on ne lâchera pas l'affaire. Chacun dans son rôle, continuez à vous mobiliser. On sera là dans cette mobilisation. Continuez à faire signer la pétition. Et vous pouvez compter sur nous pour porter le message au plus haut et ne rien lâcher. Ce centre de santé, moi je suis une enfant du 19e comme Camille. Pour nous, c'est un joyau. On sait ce qu'il représente. On sait ce qu'il représente pour les habitants. On sait que pour certains habitants, c'est le seul moyen de se soigner de manière coordonnée, d'avoir accès à des soins qui ne le sont pas dans le secteur libéral. C'est donc primordial. Faire des économies sur le dos des plus fragiles, ça suffit. Donc comptez sur nous. On continue à se mobiliser. Et puis, même si on ne peut pas rester très longtemps ce soir, parce qu'on a donc conseil d'arrondissement, on est avec vous par la pensée.
Voilà donc ce 25 mars 2025, nous sommes dans le 19e arrondissement de Paris, devant la caisse régionale de santé, la caisse régionale Île-de-France, la CRAMIF. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle mobilisation, puisque ce n'est pas la première de cette mobilisation, il y en a eu d'autres. Là, on va faire un tout petit pas de côté avec une usagère de ce centre. Donc, rappelons, hein, c'est une partie de ce centre qui est menacée de fermeture et c'est un centre de soins. Mais l'une des usagères va nous en parler.
Donc, je suis retraitée et je suis patiente au centre de santé de la Cramif. Ce centre de santé a une caractéristique, c'est que c'est un centre qui est géré par la Sécurité sociale, donc il n'y a pas d'avance de frais. Lorsque vous avez une mutuelle ou lorsque vous êtes à 100%, hein, vous n'avez rien à payer, ni pour les consultations, ni pour les radios, ni pour la kiné. J'ai fait il y a 15 jours une mammographie de contrôle, je n'ai rien payé. C'est donc très important, par les temps qui courent, de pouvoir compter sur ce centre pour ne pas être obligé d'avancer, hein, les soins. Dans le centre de la Cramif, il y a un service radio extrêmement performant, hein, qui fait des mammographies, qui fait toute une série de radios. C'est très important. Il y a également un service de kinésie, hein, avec 150 patients par jour dans ce service de kinésie. Il y a également évidemment des consultations, par exemple, il y a des consultations de dermatologie. Or, des dermatologues, cherchez-en dans le 19e, voilà. Il y a une gynécologue de secteur 1, ce qui est très rare.
Secteur 1, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas.
C'est-à-dire qu'il pratique les tarifs conventionnels. Alors, c'est très important, évidemment, de trouver une gynéco-médicale dans ce centre. Donc, ce centre répond à un véritable besoin pour la population. Il y a 30 000 patients qui viennent régulièrement au centre, ce qui fait 100 000 passages par an. Le responsable de la communauté des professionnels de santé du 19e nous a dit dans une réunion à la mairie, si les consultations ne sont plus assurées au centre, on ne trouvera pas de médecins disponibles pour les malades. On est donc là vraiment sur une question de santé publique. En ce qui me concerne, je suis retraitée, mais je suis une ancienne de la CRAMIF.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que j'ai travaillé à la CRAMIF. D'accord. Avant ma retraite, je travaillais là. Hein. Et je travaillais en particulier à l'agence comptable. Et ce centre n'est pas en déficit. Pourquoi ? Parce que c'est la CRAMIF qui assure le financement des activités du centre. Ça fait partie de ses activités.
C'est la Sécurité sociale.
C'est la Sécurité sociale, la Caisse régionale d'assurance maladie. Donc, invoquer le déficit n'a aucun sens. Ce qui, par contre, nous inquiète, c'est qu'il y a, il fut un temps, un laboratoire d'analyse médicale. Ce laboratoire a fermé. Et le lendemain du jour où il a fermé...
De l'autre côté de la rue de la rue de Flandre. Hein.
Voilà, le laboratoire de biologie médicale qui est là-bas. Et c'est ça, en fait, notre perception, c'est que la fermeture du centre ne va profiter qu'au privé. Et alors là, on est vraiment en droit de se poser la question, pourquoi la Sécurité sociale, pardon, fait une chose pareille ? Faciliter le privé au détriment de ses assurés sociaux. Bon, voilà ce que je peux vous dire.
Vous voyez, là, un peu plus loin, il y a un centre dentaire qui s'est ouvert, beaucoup voilà. De centres. On voit vraiment une floraison de centres médicaux qui s'ouvrent un peu partout. Hein. Et effectivement, ici, c'est un grand bâtiment en plus, hein, c'est un assez grand bâtiment. Donc, il y aurait une culbute immobilière sûrement à faire.
Alors, c'est ce qui est prévu. Hein. Alors là, par contre, je ne vais pas pouvoir trop vous donner de... Mais en tout cas, j'ai appris effectivement, comme d'ailleurs d'autres usagers du centre, que la direction de la caisse régionale était en train de chercher un acquéreur pour cet immeuble. Hein, voulait se débarrasser de cet immeuble ainsi que de l'immeuble de l'Argonne. Hein, où elle est, il y a des services de la caisse régionale, ce sont les services qui s'occupent de la prévention des accidents du travail, qui sont place de l'Argonne et qui seraient aussi concernés par un déménagement. Ce qui, alors moi je pense tout de suite à mes collègues, hein, qui en fait c'est plus compliqué d'aller dans le 93 quand on vient des départements divers et variés.
À Paris on assiste depuis des décennies, notamment avec l'Hôtel Dieu, puisqu'il y a eu la restructuration de l'Hôtel Dieu. Et il semblerait effectivement de démolir...
Il y a l'Institut Montsouris qui actuellement est... Voilà. Il y a 6 centres de la Croix-Rouge qui ont fermé entre 2023 et 2024. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez tout à fait raison. On sent quelque chose de très inquiétant qui est qu'un certain nombre de structures, sinon publiques, en tout cas proches du public, sont en train de fermer au profit d'une activité mercantile, je ne peux pas le dire autrement. Qui ne correspond pas par ailleurs à la population du 19e. Hein. Attention, bien sûr que Paris s'est embourgeoisé, si je peux dire, mais c'est encore populaire le 19e, c'est encore populaire. Hein. Ne serait-ce qu'aussi les personnes âgées, il y a pas mal de personnes âgées, elles ont le droit de vivre.
Mais on deviendra tous un jour une personne âgée, hein. Faut bien pas l'oublier.
Exactement, voilà. Voilà ce que je peux vous...
Comment vous voyez un peu la suite ?
Pour moi, ce qui est très important, c'est qu'il y avait pas mal de soignants. Ce qui pour moi est très important... Hein, par contre, je pense qu'il faudrait que les collègues de la CRAMIF voient qu'ils sont concernés, quoi, hein, qu'ils sont bon. Ce qui est important, c'est ce qu'a dit la députée Danielle Obono quand elle a rappelé que le ministère avait pris un engagement. C'est-à-dire le ministère avait été choqué, d'après ce que disait Monsieur Neuder, il avait été choqué de la décision de fermer. Monsieur Neuder a.
Hein, alors Monsieur Neuder, c'est.
Le ministre de la Santé. Excusez-moi, Yannick Neuder.
Non, ça change tellement vite.
Mais c'est le ministre de la Santé et donc il fait des déclarations. Là, il a dit aux députés LFI du 19e, il leur a dit, écoutez, je ne comprends pas pourquoi on ferme ce centre. Bon, maintenant, elle a eu raison, Danielle Obono, de rappeler qu'ils vont lui rappeler qu'il avait pris l'engagement de faire une étude pour savoir si c'était justifié ou non. On attend sa réponse.
Hein. Souhaitons qu'ils ne vont pas cette justification parce qu'il y a la guerre.
Vous avez raison, et je partage totalement ce point de vue, qui est que c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Mais par ailleurs, le ministre est un peu dans l'embarras, là, parce qu'il a fait une déclaration ce matin dans laquelle il dit « on n'a pas assez de médecins ». Donc je ne vois pas pourquoi on ferme là où il y en a. Hein. Oui. C'est ce qu'a dit le médecin généraliste et il a tout à fait raison. On déplore le manque de médecins et là, quand il y en a, avec des consultations, on ferme. Donc c'est pas possible.
Maintenant, c'est au tour des représentants des organisations syndicales de s'exprimer.
Je suis Nora, je suis du syndicat de la sécurité sociale. Plus que jamais, oui, le ministre doit intervenir pour le maintien intégral de notre centre de santé Stalingrad et le maintien de tous nos emplois. Je suis représentante aussi du personnel, moi je suis désolée. Un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est un plan de licenciement. Et c'est honteux aujourd'hui, alors que ce matin sur France Info, le ministre disait qu'il y avait du manque de personnel médical, qu'on ne formait pas assez de médecins. Aujourd'hui, il cautionne parce que pour l'instant, il n'a pas donné à David Clerc l'ordre d'arrêter la négociation du PSE. Ils sont en train de discuter pour fermer des structures de santé. Hein. Peut-être qu'ils jouent sur les mots. Ce n'est pas intégralement le centre qui ferme. Mais ils veulent licencier du personnel. Et ça, nous n'acceptons pas. Nous ne l'accepterons jamais. Nous ne rentrons pas dans cette logique qui n'est qu'une logique libérale. Ils veulent fermer le service radiologie pour qu'on aille d'un côté au centre de radiologie qui est juste à côté. C'est une honte. Moi, il n'y a pas de problème. Ils peuvent exister, mais le nôtre, il doit rester. Parce que notre centre de santé, c'est la Sécu. On reçoit tout le monde. Surtout dans un contexte où il y a la montée du racisme, de la xénophobie, où on veut diviser les populations selon leurs origines, leur couleur de peau. Ben moi, je suis désolé, je suis centre de sécurité sociale, je ne reconnais pas la nationalité. On soigne tout le monde, que vous soyez blanc, noir, que vous ayez des papiers, que vous n'en ayez pas. Nous soignons tout le monde parce que c'est l'esprit de la sécurité sociale. Vous cotisez, je le redis, vous cotisez en fonction de vos moyens, vous recevez en fonction de vos besoins. Donc oui, au nom du syndicat Force Ouvrière, je vous remercie tous. Et nous ne lâcherons pas. On ne rentre pas dans une négociation de PSE parce que je suis désolé, on sauvegarde rien du tout. On liquide des postes et on refuse. Moi, je suis là pour mes collègues et je suis là pour les patients parce que c'est ça la sécurité sociale. Il faut qu'on continue de se mobiliser pour le maintien intégral du centre de santé Stalingrad. Merci mes camarades.
Merci.
D'abord, au nom de la CGT, je tenais à vous remercier de votre mobilisation et de votre présence. Comme disait Nora juste avant, on est entièrement d'accord qu'ils ont organisé le déficit puisqu'ils ont arrêté de financer justement le centre de santé. Ça faisait des années qu'ils le faisaient et du jour au lendemain, ils ont arrêté. Donc forcément, il est arrivé le déficit, c'est pour justifier les licenciements. Alors, par contre, effectivement, pour notre part, nous sommes le syndicat majoritaire à la CRAMIF. Et donc, du coup, nous participons aux négociations du PSE, pas parce que nous sommes d'accord avec ce plan de licenciement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est dans tous les rassemblements et mobilisés pour défendre le personnel et l'accompagner. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a aucune garantie et on ne peut pas se permettre de jouer avec le personnel qui est en danger. Au bout du compte, si nos mobilisations, et vraiment je le souhaite de tout cœur qu'on aille jusqu'au bout et qu'on gagne sur le centre de santé pour toutes les raisons qui ont été évoquées, la santé, les patients, l'importance du centre dans l'arrondissement, pour toutes ces raisons, donc on se doit de gagner, mais si on devait aller au bout du plan, il faudrait pas que les collègues se retrouvent avec de la misère en plus du licenciement. Et donc, c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas être présents à ces négociations. Nous avons eu écho aujourd'hui qui voulait repousser. Ça devait être clôturé le 7 avril. Ils proposent de repousser. Je n'ai pas eu plus d'infos, je n'étais pas présent aujourd'hui. Voilà, donc je suis quand même venu pour le rassemblement. Mais en tout cas, sachez qu'on ne lâche pas, qu'on ne lâche pas les patients, on ne lâche pas les collègues et on ne lâche pas le centre. Voilà. Bon. Bonne mobilisation à tous et on lâche pas.
Merci à tous au nom des salariés de la sécurité sociale d'être présents ici. Pour nous, ce combat, il est important. Il est important parce que le centre de santé de Stalingrad est le premier, mais ne sera pas le seul, puisqu'on sait qu'il y a une liste de centres de santé qui sont concernés par ces fermetures. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le ministre réponde enfin et réponde à nous, mais aussi aille voir le directeur de la CNAM pour lui dire de cesser cette fermeture et de cesser toutes les autres fermetures de prévues. C'est inadmissible de s'attaquer à des services de soins pour les personnes en situation de précarité, parce que la réalité, c'est ça. On dit que Paris n'est pas un désert médical, c'est faux. Si à Paris, on n'a pas de l'argent, on ne peut pas se soigner. Si on veut aller en consultation et qu'on paye 150 euros en secteur 2, voire 300 ou 400 euros en déconventionnement, oui, on peut. Mais quand on ne peut pas faire l'avance des frais, on ne peut pas se soigner. Donc c'est une hérésie. Et dire que les centres de santé sont déficitaires, c'est aussi faux. C'est aussi faux. Et il faut l'entendre, parce que ce sont des financements internes à la sécurité sociale. Donc ce sont des lignes budgétaires. On peut changer les lignes budgétaires de la façon dont on le souhaite. Au lieu de financer des centres de santé privés avec des escrocs qui facturent des soins sur lesquels les patients n'ont pas été soignés, toutes les fraudes des professionnels de centres de santé privés, si on récupère tout cet argent, on peut très bien financer les centres de santé de la sécurité sociale. Et il ne faut pas oublier tous les autres centres de santé, par exemple de la Croix-Rouge aussi, qui ont fermé. Et sur le projet de Stalingrad, on oublie une chose, c'est que l'immeuble est voué à être vendu. Donc il ne s'agit pas que d'un projet financier, il s'agit aussi d'une volonté de réduire les surfaces, de faire des économies de fonctionnement à toute la sécurité sociale et aussi de préparer le transfert des centres de santé à l'UGCAMIF. L'UGCAMIF, c'est les établissements de santé de la sécurité sociale. Sachez que les UGCAM, en général, sont en situation financière précaire. Donc en fait, l'idée, c'est de commencer à liquider ce qu'ils appellent, parce que je dis bien entre guillemets, ce qu'ils appellent les centres de santé déficitaires avant le transfert, parce qu'ils savent très bien que les UGCAM sont en difficulté. Et au lieu de renflouer les caisses des établissements de santé de l'UGCAM, qui soignent les personnes âgées, les malades, les handicapés, les personnes en situation de handicap, enfants et adultes, au lieu de renflouer les caisses pour s'occuper dignement des personnes malades, on préfère fermer des centres pour une question financière. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est inadmissible. Et il ne faut pas qu'on s'arrête, il faut qu'on continue à lutter. Évidemment, on doit s'intéresser à nos collègues, mais on s'y intéressera le moment venu. Pour le moment, il faut absolument qu'on essaie jusqu'au bout d'éviter la fermeture. Merci.
Le 19e,
je chérie et je m'y soigne.
Et vous êtes de retour dans l'actualité des luttes jusqu'à 13h30 sur FPP 106.3 FM. On vous diffuse maintenant le second reportage que nous avons réalisé le samedi 5 avril dernier à l'occasion de la Journée mondiale de la santé sur la place de la République lors du rassemblement appelé par le Tour de France pour la santé. Bonne écoute.
Il y a le docteur Mélanie Popov qui est donc représente le printemps bruyant qui manifeste aujourd'hui contre les pesticides et pour la biodiversité. Et donc elle nous fait le plaisir d'être parmi nous au départ de notre initiative.
Moi je suis médecin dans le service public à Paris et je suis membre d'une association qui s'appelle Alliance Santé Planétaire et on défend une vision de la santé qui prend en compte les désastres écologiques. Les pesticides, il y a peu de doute, hein, y a un consensus mondial. En France, on a eu une étude de l'INSERM, une expertise collective qui a été faite en 2013 et réactualisée en 2021, qui a montré que les premières victimes des pesticides, bien sûr, sont les agriculteurs et les riverains et les riveraines, ainsi que leurs enfants, avec une augmentation de cancer de prostate, de lymphome, de maladies neurodégénératives comme le Parkinson, mais que la population générale est aussi à risque de développer des maladies à cause d'une imprégnation chronique à faible dose. Là, il y a une étude qui a montré que la moitié des fruits et le quart des légumes non bio contenait des résidus de pesticides. Il y a une autre étude récente de l'INRAE et l'IFREMER qui a montré que les sols et l'eau étaient contaminés. Il y a encore une autre étude qui s'appelle l'étude de cohorte Esteban qui a montré qu'on avait que la population française était imprégnée de pesticides. Les pesticides, pour mémoire, la plupart sont beaucoup sont cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Les deux tiers sont des perturbateurs endocriniens. Et maintenant, on sait qu'ils participent à l'explosion de maladies chroniques. Dans les maladies chroniques, je pourrais citer l'obésité et le diabète. L'explosion des cancers, notamment chez les personnes jeunes, notamment les cancers du sein chez la femme. En France, on est devenu le premier pays au monde en termes de cancer, d'incidence de cancer de la prostate. Une femme sur 8 aura un cancer de la prostate dans sa vie. L'endométriose, une femme sur 10. L'infertilité, les hommes d'aujourd'hui ont moitié moins de spermatozoïdes que leur père au même âge. Voilà. Donc, toutes ces maladies ont une participation environnementale et les pesticides, avec leur effet reprotoxique et perturbateur endocrinien, entraînent toutes ces maladies. Donc pourquoi ça nous concerne, nous, en tant que professionnels de santé, les pesticides ? Tout simplement parce que aujourd'hui, considérant l'état de l'environnement, la santé, c'est plus réellement qu'une compétence individuelle, mais c'est aussi une responsabilité collective. Et nous, en tant que soignants, on a une voix qui porte, une légitimité, on est garant de la santé et on doit joindre nos forces et notre combat à celui des agriculteurs et de la population générale, car le système de santé n'est pas en forme. Et après, quand il y a une pandémie comme le Covid-19 qui arrive sur une population qui est déjà malade de maladies chroniques, ça fait ce qu'on appelle une syndémie et ça sature les hôpitaux. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je vous encourage, j'encourage tout le monde de la santé à prendre conscience aussi que oui, la santé, vous le savez, la santé est politique, mais qu'il faut descendre dans la rue pour des choses qui sont pas forcément évidentes pour nous, comme la lutte contre le changement climatique, la lutte contre les pesticides, contre la pollution au plastique, qui crée énormément de maladies. Voilà, je vous remercie.
Je vais maintenant passer la parole à Laurent Laporte, qui est le secrétaire général de l'UFMIC CGT Santé, qui va nous parler management et conditions de travail à l'hôpital.
Merci Françoise. Alors l'UFMIC, c'est l'Union fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et techniciens, qui sont rassemblés là pour le coup sous la bannière CGT. Donc moi je suis cadre de santé dans un hôpital public et je peux vous dire que ça fait 20 ans que je gère la pénurie, je ne fais que ça, je ne fais plus du soin. Quand j'ai été formé, on m'a dit il faut que tu sois aussi bon à l'hôpital que chez Coca-Cola ou Renault Truck. Et on ne soigne plus, on produit du soin. Nos patients ne sont plus des patients, ce sont des clients. Et aujourd'hui, plus important que le médecin, c'est le directeur de la clientèle. Donc autant vous dire que l'hôpital est géré comme une entreprise, mais une entreprise qui est en dépôt de bilan, puisqu'il ne s'agit plus de soigner, mais de produire du soin. Cette activité qui se veut être une activité financière provoque des problèmes de désorganisation majeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on découpe l'année du 1er janvier au 31 décembre, un peu comme chez Renault, comme si tous les jours se valaient. Or, à l'hôpital, on sait que c'est complètement faux. On sait qu'en début d'année, il y a des grippes, il y a des épidémies, il y a la Covid. Là, maintenant, c'est les rhinos. D'ailleurs, j'en ai chopé une belle avec le pollen et le changement de temps. Il y a les pathologies qui sont liées aux fêtes aussi, aux vacances, à l'été, etc. Il n'y a pas un jour qui ressemble à un autre à l'hôpital. Vouloir standardiser le soin est absolument ridicule et surtout contre-productif. Ce qui fait que... Mais aujourd'hui, tout ça, on s'en fout. Il faut le dire que ce qui nous intéresse, malheureusement, nous, c'est soigner. On nous dit que ce n'est plus la mission de l'hôpital. La mission de l'hôpital, c'est finalement s'équilibrer avec des actes qui sont tous les ans moins payés, moins notés. Donc, on gère la pénurie. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que ça va se casser la figure. Alors, la question de l'hôpital, elle est beaucoup trop sérieuse pour la laisser qu'aux seules mains des syndicats. Je le dis, je suis syndicaliste, avec notre camarade Ramon qui représente Sud. Aujourd'hui, c'est plus possible. Nous sommes seuls à nous battre pour sauver l'hôpital public. Ça doit s'arrêter. Si les associations comme le Tour de France s'y mêlent, mais si aussi il y a un mouvement citoyen et si les élus locaux défendent leur hôpital. Ça, c'est super important. Il faut que les villes se réapprient leurs hôpitaux, se réapproprient leur capacité en soins et qu'ils fassent pression sur les politiques pour que ça change. Sinon, ça va se casser la figure. Voilà. Et on compte donc tous sur vous. Et merci d'être là.
Voilà, alors on est évidemment dans le cadre de la Journée mondiale de la santé et aussi d'une mobilisation européenne avec le réseau, notre santé n'est pas à vendre. Et donc, je donne la parole maintenant à Chantal Birman, qui va venir parler au nom des Lilas, de la maternité et du centre d'IVG des Lilas, pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe à l'heure actuelle en Seine-Saint-Denis.
Bonjour à tous. Alors oui, la maternité des Lilas, c'est un lieu emblématique. Pourquoi ? Parce que ça a été une des premières maternités, avec la maternité des Bleuets, à faire de l'éducation populaire au niveau des femmes. À ce moment-là, c'était sur l'accouchement sans douleur. Ça a introduit une notion supplémentaire au niveau des professionnels de santé, qui était justement de pouvoir faire des cours, de pouvoir apprendre, de pouvoir éduquer l'ensemble de la population. Au niveau de l'avortement, la maternité des Lilas a ouvert ses portes au GIS, c'est-à-dire groupe d'intervention en santé, qui étaient donc les médecins qui se réunissaient à la maternité des Lilas et qui ont été les professeurs, si j'ose dire, les enseignants de tous les groupes MLAC, que ce soit des groupes médecins ou que ce soit des groupes au niveau du public, puisque, comme vous le savez, les femmes ont pris part, et c'est la seule exemple en santé dans le monde entier, aux avortements à travers le MLAC, qui était le mouvement de la libération de l'avortement et de la contraception. Donc ce lieu hyper emblématique, il a été question de le fermer dès l'arrivée de la T2A. Pourquoi ? Parce que, comme vous savez, la T2A, pour pouvoir rentrer dans les budgets, ce qui coûtait cher à l'hôpital, le plus cher à l'hôpital, c'était bien sûr les salaires des gens. Et donc, il suffisait de multiplier le nombre d'actes faits par la personne avec le même salaire pour pouvoir rentrer dans son budget. Et donc, on a demandé aux professionnels de santé, et évidemment les Lilas n'ont pas fait exception, de mettre les femmes à la chaîne, très nettement. Et là-dessus, les sages-femmes ont été très combattantes pour pouvoir garder l'accompagnement humain. On a fait tout ce qu'on pouvait, mais les contraintes budgétaires ont fait qu'on nous a mis effectivement à la chaîne, comme partout ailleurs d'ailleurs. Et puis, ensuite, il a été question de revendre les Lilas, puisqu'il fallait d'un seul coup qu'on soit accolé aux grands hôpitaux français. Et nous, on était un petit lieu à part, et on était à part de par nos engagements militants, à part de par le but qu'on avait, du fait des accompagnements spécifiques qu'on faisait à tous les niveaux de la santé. Et donc, là, il a été question de nous accoler les Lilas à quelque chose d'autre, c'était les faire entrer dans un système de pensée, de réflexion, de travail qui n'était pas en rapport avec ce qu'on avait toujours fait, et surtout c'était nier nos compétences. Et on a progressivement essayé de faire de ce lieu un lieu expérimental, d'expérimentation de l'humanité. Ça a été refusé par les ARS. Aujourd'hui, ce lieu va être transformé en centre de santé où les interruptions de grossesse sous anesthésie générale iront lieu à Thenon, où restera l'anesthésie locale, les consultations prénatales. Et c'est un drame, vraiment un drame profond, et pour les femmes, et pour la santé de la population, et pour les professionnels de santé. Non seulement pour ce qui se passe concrètement, mais pour l'avenir, parce que la naissance, l'interruption de grossesse et l'allaitement sont des événements qui sont spécifiques aux femmes, et à l'occasion de ces événements-là, elles grandissent ou pas. Et l'engagement est autour de ça. Alors on vient de faire signe que c'est fini pour moi. À la prochaine, merci.
Donc je passe la parole à Danielle Gautry.
Alors je vais parler au nom du collectif Avortement Europe, Les Femmes Décident. Alors ce collectif, il existe depuis 2016 et il regroupe 50 structures environ, associations féministes, professionnelles, syndicats et partis politiques. Il est à l'initiative des manifestations pour la Journée internationale pour le droit à l'avortement du 28 septembre et d'autres événements, tribunes ou pétitions dans les médias. Un peu plus de 50 ans après la première loi qui tolérait seulement l'avortement sous condition en France, le cadre législatif et réglementaire s'est élargi, amélioré, jusqu'à l'inscription de la liberté de la femme à interrompre sa grossesse. Mais qu'en est-il en réalité des possibilités d'accès à ce droit? Il existe de fortes inégalités territoriales quant à la proximité des professionnels pratiquant l'IVG avec des temps ou des distances de trajet très longs pour les consultations pré- et post-IVG et l'IVG elle-même, malgré les téléconsultations possibles. Pourquoi ces inégalités territoriales en France? La fermeture des centres de proximité avec les regroupements hospitaliers dans le public ou la désaffectation des centres privés pour cet acte peu rémunérateur, cela correspond à, tenez-vous bien, 1369 maternités en 1975 et seulement 456 en 2021. Chaque fermeture ou regroupement entraîne une diminution de l'offre de soins avec des possibilités d'accès au bloc opératoire pour les IVG instrumentales réduites. La mutualisation des personnels médicaux et paramédicaux ne permet pas un travail concret en équipe dédiée à l'IVG et réduit l'autonomie d'organisation des centres. Ce que le collectif demande, c'est que les moyens humains et financiers soient réels dans une démarche qualité de parcours de soins pour une IVG. Cela ne peut pas exister dans une gestion comptable de la santé dans le cadre de la tarification à l'activité actuelle. Le collectif demande également la formation des professionnels médicaux et paramédicaux à l'écoute et à l'accompagnement de ces femmes. Et également, il demande que la clause de conscience spécifique ne disparaisse de la loi et qu'un professionnel ne décide pas du choix de vie d'autrui. Merci.
Je m'appelle Lydia Caillot, je suis médecin généraliste et travaille en centre municipal de santé en Seine-Saint-Denis à Pantin depuis plus de 30 ans maintenant. Je représente aujourd'hui l'Union syndicale des professionnels des centres de santé, appelée l'USSPCS. Créé en 1946, notre syndicat représente toutes et toutes les professionnels, soignantes et soignants, professionnels administratifs qui travaillent en centre de santé. Nous sommes actuellement plus de 54 000 professionnels travaillant dans ces centres et nous sommes tous salariés. Effectivement, il n'y a aucun professionnel libéraux dans les centres de santé. Les centres de santé sont aujourd'hui des structures de soins et de prévention ambulatoire. En 2024, le ministère a recensé plus de 3000 centres de santé en France, dont plus de 1200 qui sont des centres médicaux polyvalents ou pluriprofessionnels. Ce qui veut dire que dans ces centres de santé, selon l'offre de soins proposée, vous pouvez consulter des médecins généralistes ou spécialistes, des sages-femmes, des dentistes et leurs assistantes dentaires, des infirmiers, des infirmières, des kinés, d'autres professions paramédicales, des psychologues également. Mais vous serez aussi reçu et accompagné dans votre parcours de santé par des assistantes sociales, des secrétaires d'accueil et médicales et des personnels administratifs. Alors, la spécificité des centres de santé, c'est qu'ils ont l'obligation légale de respecter le tarif conventionné dit secteur 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Cela permet à toutes et à tous de pouvoir se soigner sans reste à charge. Également, ils ont celle de pratiquer le tiers payant sans aucune avance de frais ou de façon très limitée. Les centres de santé ont pour mission sociale également d'accueillir de nombreuses personnes en situation de vulnérabilité. Nos structures permettent de répondre à leurs besoins de soins, mais aussi de prévention, réalisés au quotidien dans les centres ou hors les murs, ce qu'on dit dans des actions dites « aller vers ». Enfin, ils peuvent accueillir des étudiants en santé, mener des actions de santé publique sur les territoires, et notamment, par exemple, on pratique les IVG. Bref, par leur mission, les centres de santé de services publics sont des services de premier recours et de proximité. Ce sont les premiers partenaires des services publics de prévention tels que la PMI, la médecine scolaire et les hôpitaux publics. Ce sont de formidables outils de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Alors, qu'attendent les pouvoirs publics pour les soutenir et les développer partout en France? Car il y a urgence. Les déserts médicaux, ce sont 7 millions de personnes qui n'ont pas accès à un médecin traitant, dont plus de 500 000 personnes qui sont en affection longue durée. Les tarifs des mutuelles, les dépassements d'honoraires, les restes à charge explosent, avec pour conséquence 3 millions de personnes sans complémentaire santé et près de 40% de la population qui renonce aux soins. C'est énorme. Aussi, depuis toujours, à l'USPCS, nous appelons la création d'un réseau national de centres de santé et de services publics maillant tout le territoire dans le cadre d'un service public territorial de santé de proximité en lien avec l'hôpital public et les services de prévention. En créant d'ici 2030 2000 nouveaux centres de santé et de services publics, le maillage sera réalisable et il permettra à des millions d'habitants, d'habitantes d'avoir un médecin traitant et de pouvoir se faire soigner. 2000 nouveaux centres, c'est non seulement possible, mais c'est surtout indispensable. Alors, nous comptons sur vous tous, citoyennes et usagers, usagères, sur le Tour de France et toutes les organisations présentes ici pour nous aider à ouvrir les yeux des pouvoirs publics et qu'un plan de soutien et de développement des centres de santé soit enfin mis en œuvre au service des territoires et des populations. Je vous remercie pour votre attention.
Allez, la parole aux travailleurs sociaux en lutte, qui étaient en manifestation le 1er avril.
Merci. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Jordan, je travaille au SAMU social de Paris. Je suis militant à la CGT et je participe à la coordination Travail social Île-de-France. Je prends la parole aujourd'hui suite aux rencontres nationales du travail social qui ont eu lieu en janvier et à la grève qu'on a faite le 1er avril. Ces rencontres, elles ont rassemblé des militants, des syndiqués ou des non-syndiqués, des organisations syndicales et des collectifs du secteur social et médico-social partout en France. Dans notre secteur, le social, le médico-social, on fait face tous les jours à des attaques et travailleurs ou usagers à leurs conséquences, des suppressions d'emplois, le recul des droits des usagers, des usagères, le recul des droits des salariés, recul de l'accès aux soins avec les difficultés d'accès à l'AME, aux permanences sociales, aux permanences d'accès aux soins, avec les fermetures de centres de santé comme celui de la CRAMIF ou celui de la CPAM. En janvier, du coup, on a eu des rencontres nationales et on en est sorti avec un appel unitaire. Pas loin de 80 organisations et syndicats qui ont signé cet appel et qui appelaient à une mobilisation le 1er avril et à une semaine d'action du 12 au 16 mai avec une journée de grève nationale le 15 mai. Le 1er avril, c'est une première victoire. On était 30 000 mobilisés partout en France sur plus de 100 lieux de rassemblement et de manifestation. Il y avait des travailleurs du social, du médico-social, de la santé privée, de Pôle emploi. On était 1500 à Paris. On a défilé du ministère de la Santé jusqu'à Denfert. Et pourquoi on a manifesté? Évidemment, pour des salaires décents, pour améliorer nos conditions de travail et nos conditions d'études pour les étudiants et étudiantes, contre les licenciements et pour le financement de nos missions et de nos formations à hauteur des besoins. Et aujourd'hui, je viens vous voir pour essayer de construire aussi une convergence avec tous les travailleurs de manière large du secteur social, du médico-social, de la santé et les usagers de ces services. Et l'objectif, c'est de construire une mobilisation la plus large possible pour le mois de mai. Mardi, on a une AG, c'est à la Bourse du Travail, c'est à 18h30, salle Jean Jaurès. Donc je vous invite à être le plus nombreux possible parce que c'est dans cette AG notamment qu'on va commencer à parler de comment on construit la mobilisation de mai, comment on fait en sorte que le 15 mai, ce soit une manifestation la plus massive possible, comment on va aller dans nos AG, dans nos services, dans nos boîtes, construire cette mobilisation. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais pourtant, il y a des milliards pour le profit, pour la guerre. On nous dit aussi qu'on est en crise, mais la vraie crise, c'est celle qui maltraite celles et ceux qui viennent en aide, celles et qui soignent, celles et ceux qui sont qui ont besoin de ces soins et de cette aide. Nous, on n'abandonnera pas, on pliera pas, il n'y aura pas de statu quo. Alors, on espère que l'AG de mardi sera massive et que vous serez là et que le 15 mai, la réponse, elle sera encore plus massive. On va se faire entendre, mes camarades. Oui, Olivier Milleron, moi je suis cardiologue à Bichat, je parle au nom du collectif Interhôpitaux. On a eu quand même un événement positif ces derniers temps, il faut les souligner. On a réussi à ce que soit voté au Parlement une loi sur les ratios de soignants, c'est-à-dire le nombre maximum de patients par infirmière. Ça paraît assez fou, mais quand vous allez à la crèche, s'il n'y a pas le nombre d'auxiliaires de périculture, bah, votre gamin il peut pas être accueilli. Si vous montez dans un avion et qu'il n'y a pas le personnel de bord, l'avion ne va pas décoller. À l'hôpital, il n'y a pas de normes, sauf en réanimation. Et jusqu'à maintenant, ça a toujours été une variable d'ajustement. Hein, quand on a commencé à faire l'hôpital entreprise et à pressuriser le budget des hôpitaux, 60% du budget des hôpitaux, c'est la masse salariale. Et donc, c'est la masse salariale qu'on a diminuée, ce qui explique la dégradation des conditions de travail et le fait que les gens aient quitté l'hôpital parce qu'ils ne supportaient plus de travailler dans ces conditions-là. Il y a des études qui ont été faites dans d'autres pays qui montrent que quand on diminue le nombre de patients par infirmière, on améliore la qualité des soins, on diminue les complications pendant l'hospitalisation, on diminue la durée d'hospitalisation et on diminue la mortalité des patients pendant l'hospitalisation, mais après aussi l'hospitalisation, et on diminue la réhospitalisation, donc toutes les complications. Ça, bien sûr, c'est bénéfique pour les patients, c'est bénéfique pour les équipes, parce que les gens travaillent dans des meilleures conditions et donc on a des équipes qui sont beaucoup plus stables et on ne passe pas notre temps comme maintenant à former des gens qui vont s'en aller. Et en plus, ça fait faire des économies sur le budget de la santé. Ceci dit, maintenant, il est inscrit dans la loi qu'il doit y avoir par spécialité des ratios infirmiers fixés par spécialité et que la balle est dans les mains de l'HAS. Et donc, il va falloir tous se mobiliser parce que le diable est dans les détails. Hein, l'application des 35 heures à l'hôpital, ça a été une catastrophe parce qu'on n'a pas mis les moyens pour que les gens travaillent dans des meilleures conditions et on les a pressurisés. Ça a été le début de la dégradation des conditions de travail. Et donc, aujourd'hui, il va falloir que tous les soignants s'impliquent dans cette procédure de fixation des ratios. Pour vous donner un exemple hein, de ce qui est possible de faire pour la technocratie, le nouvel hôpital Nord, Bichat-Beaujon, il était prévu d'avoir une infirmière pour 14 patients, ce qui est délirant. Et on considère que la cible, elle est probablement autour de 6 patients maximum par infirmière. Et en tout cas, il va falloir qu'on se mette sur ces discussions sur comment on fixe les ratios et quels sont les ratios d'arrivée. Et surtout, il faut faire ce qu'a fait l'Allemagne. Sortir la masse salariale nécessaire de la tarification à l'activité, c'est des conditions de sécurité, c'est de la qualité des soins. Donc c'est non discutable, il faut que ces salaires nécessaires à l'application des ratios soient sanctuarisés dans le budget de la sécurité sociale. Je vous remercie de votre attention.
Bonjour Christophe Prudhomme, moi je suis médecin urgentiste, je représente la CGT à la Caisse nationale d'assurance maladie et accessoirement je suis conseiller régional LFI en Île-de-France. Donc je voudrais vous parler des urgences et du scandale des urgences et des conséquences des décisions qui sont prises et en particulier de la responsabilité de ceux qui n'ont pas voté la censure quand on a imposé la loi de financement de la sécurité sociale par 49.3 à l'Assemblée. Parce que le fait qu'on n'ait pas les moyens de faire fonctionner les hôpitaux, ça entraîne aujourd'hui des morts qui sont des morts évitables. C'est comme ça que ça a été placé par l'association SAMU Urgence de France, qui était présidée par François Braun avant qu'il ne vienne ministre de la Santé. Et on considère aujourd'hui
que du fait des dysfonctionnements des services d'urgence, vous savez que dans un certain nombre d'endroits, il faut appeler le 15, les portes des services d'urgence sont fermées, il faut avoir appelé le 15 pour avoir un ticket d'entrée, pour rentrer dans les services d'urgence. Il y a des endroits où il y a une seule unité du SAMU pour tout un département. Un certain nombre d'unités du SAMU ne sont plus équipées par les médecins, mais par les infirmières. Et tout ça, ça entraîne ce qu'on appelle une perte de chance par défaut de moyens. Et le bilan qu'on fait, et c'est les chiffres de l'association SAMU Urgence de France, on considère que le nombre de morts évitables aujourd'hui dans les urgences est entre 1500 et 2000 personnes par an. Voilà. Donc, ceux qui aujourd'hui ne donnent pas les moyens au service public, puisque les urgences, c'est essentiellement le service public, de fonctionner, ils ont une responsabilité morale sur ces morts évitables. Autre chose, on manque de lits. On manque de lits parce qu'il n'y a pas assez de personnel dans les hôpitaux. Aujourd'hui, les lits sont fermés parce qu'on n'a pas assez d'infirmières, d'aides-soignantes. Eh bien, les patients attendent sur des brancards aux urgences. Et quand on attend sur un brancard aux urgences, on a aussi des études là-dessus qui montrent que quand on attend sur un brancard un lit 12 heures, 24 heures, il y a une surmortalité, tout patient confondu, de 10%. Et quand on est avec une pathologie grave qui nécessite une hospitalisation en soins intensifs, c'est une surmortalité de 30%. Donc c'est ça l'urgence aujourd'hui. Et moi je suis dans une colère noire, c'est-à-dire que, je termine là-dessus, les directeurs d'hôpitaux, la Fédération hospitalière de France, a dit que si cette année, on n'avait pas un budget des hôpitaux qui augmente de 6%, puisqu'on a l'inflation, on a les quelques mesures catégorielles, salariales, on a l'évolution des dépenses de santé, on a des coûts de plus en plus importants sur les traitements, en particulier sur les anticancéreux. Si on n'a pas 6%, on ne maintient pas l'existant. On ne maintient pas l'existant. Or, le PLFSS, la loi de financement de la sécurité sociale adoptée cette année par 43, imposée par 49.3, nous ont octroyé 3,2%. Eh bien, 3,2%, c'est des moyens en moins. Et ça sera des morts en plus. Eh bien, il va falloir que ça change. Parce que nous, les soignants, nous ne sommes pas les responsables et on ne veut pas porter le chapeau. Donc ça suffit. On veut les moyens dans un pays riche comme le nôtre pour soigner correctement les patients.
Merci. Lucie Castet va nous parler de financement de l'hôpital.
Bonjour à tous, je suis ravie d'être là et c'est hyper important d'être là aujourd'hui pour la santé publique. On le sait tous, on est à un moment qui est absolument clé aujourd'hui puisqu'on va commencer à préparer le budget 2026. Vous avez adoré la séquence budget 2025, on va maintenant parler du budget 2026. On nous avait annoncé 1 milliard supplémentaire sur l'ONDAM, reste à démontrer comment ce milliard sera utilisé. Et puis surtout, est-ce que 1 milliard c'est suffisant? Vous connaissez déjà la réponse, bien sûr que non. Quand on a des hôpitaux publics qui affichent un déficit là à la fin 2024 de 3,5 milliards d'euros. Alors, sans rentrer en détail sur la situation très difficile de l'hôpital public aujourd'hui, que vous connaissez tous, ce qu'on peut dire, c'est que l'hôpital public vit aujourd'hui une crise profonde, notamment parce que les soignants sont exténués par des conditions de travail extrêmement difficiles et ils n'ont plus l'impression de remplir leur devoir, de remplir leur métier, de répondre à la mission de service public qui leur a été confiée. Et donc, il y a désormais un énorme problème d'attractivité dans la fonction publique hospitalière. Donc on sait que ce système de soins qui se dégrade, pourtant tout le monde nous l'envie et donc je prends l'opportunité de cette prise de parole pour saluer tous les soignants, les sages-femmes, les infirmières, les infirmiers, les brancardiers, les ambulanciers, les médecins, mais aussi le personnel administratif des hôpitaux. Je pense qu'on peut les applaudir tous ensemble parce qu'ils ont besoin de notre soutien. On les a applaudis pendant la crise Covid, mais je pense qu'il faudrait le faire tous les jours. Peut-être juste un point, parce que je souhaite quand même faire passer comme message principal aujourd'hui, c'est que cette situation n'est pas inéluctable. La façon dont on finance notre système de soins aujourd'hui, notre système de santé, c'est le fruit de décisions politiques, de choix budgétaires et financiers, et donc ça peut être renversé. Aujourd'hui, on parle d'un déficit de l'hôpital public, mais en fait, ce déficit, cette dette de l'hôpital public, elle est artificiellement créée par la façon dont on finance notre système de soins. Et si on décide de financer par l'angle des besoins, c'est-à-dire évaluer la façon dont on devrait financer pour répondre à l'ensemble des besoins de nos concitoyens, parce que c'est ça un service public, alors on peut renverser cette situation, et donc on peut décider de mettre les moyens. Et donc, aujourd'hui, je souhaite
insister sur les motifs d'espoir, ça peut être changé, la façon dont on finance. Et puis plus largement, on observe quand même quelques bougées, puisque désormais on sait que la santé publique est une priorité des Français, et donc peut-être ça fait bouger certains. On sait que la PPL sur le nombre minimum de soignants par patient a été adoptée. On commence à réguler la liberté d'installation des médecins dans les zones où il y en a déjà beaucoup. Ce sont des progrès, il faut surtout pas s'arrêter là, mais j'espère qu'on peut considérer que la porte s'ouvre, et surtout que les moyens seront mis en face de ces ouvertures, parce que sans les moyens supplémentaires, alors ces ouvertures ne serviront à rien. J'en termine parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je souhaite quand même dire un mot sur les soignants à Gaza, qui sont aujourd'hui la cible de frappes terribles. On sait qu'on a retrouvé des corps de soignants qui ont été ciblés délibérément. Il faut penser à eux qui soignent tous les jours une population totalement meurtrie. Et puis sur un autre registre, je souhaite aussi qu'on ait une pensée pour les soignants étrangers, les PADU, qui se mobilisent tous les jours pour travailler dans nos hôpitaux là où on manque de soignants. Et il faut saluer leur courage, ils travaillent dans des conditions indignes de la République, et donc je souhaite qu'on les salue aujourd'hui et qu'on les applaudisse. Merci pour eux. Bonne journée à tous.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.